Chapitre 9. En haut de la côte. Eric Schald par Christiania. Eh bien, ma chère Hélène, j'ai suivi votre conseil, j'ai tenté de m'arracher à cette vie de servage où la miette de pain gagnée me semblait si dure. Et puisque mon corps, trop débile pour les volontés de mon âme, me condamne à végéter hors de mon cher couvent, avec la flamme du sanctuaire brûlant en moi, j'ai voulu l'abriter, cette flamme pure, au creux du fjord natal, devant cette mer de Norvège que je n'avais pas revue depuis 15 ans. Ma rupture avec la princesse, oh, brusque et bizarre, comme je devais l'attendre d'une personne aussi fantasque. En passant à Budapest, j'avais trouvé un ancien compagnon de Kossuth, patriote convaincu, tombé dans la plus noire misère, mais digne et fier sous sa guenille, un héros, un saint. Pour le secourir et l'honorer en même temps, je le fis asseoir près de moi à la table de l'hôtel. Quel scandale ! Toutes les dames se levèrent, refusant de manger avec un mendiant, comme si le divin maître, qui lavait les pieds aux pauvres, n'avait pas donné 20 fois l'exemple de la sainte humilité. La plus indignée encore fut la princesse, imbue, malgré ses prétentions au christianisme libéral, de tout le despotisme de sa caste et de sa race. Après une explication violente, elle m'abandonna sans argent dans cette ville inconnue, obligée de me faire rapatrier par mon consul avec un certificat d'indigence. Cette confirmation à mon vœu de pauvreté m'eût laissé pourtant bien calme et sereine si j'avais trouvé ici l'asile souhaité. Ah, mon ami ! D'abord une vraie joie, en arrivant, de revoir le petit village marin, ses maisons de bois, le clocher en vigie dominant les flots, et tout autour de l'église, n'ayant pour vitraux que le bleu de la mer, le cimetière d'herbes folles, aux croix serrées, bousculées comme par le roulis et le vent du large. Le beau coin pour prier et vivre en Dieu, si l'on était distrait à tout moment par la méchanceté, la sottise, le bruit vorace du pauvre bétail humain qui broute là. Pas un reflet du ciel dans tous ses yeux, ni une pensée vers la survie. Sur le petit mur bas du cimetière, les enfants jouent, les ménagères s'assied pour coudre, aiguisant leur langue meurtrière, et le dimanche soir, les belles filles, troublant la mort de chansons profanes, mènent des rondes et remuent de leurs jupes folles l'ombre entremêlée de ces croix de tombe que la lune allonge sur la plage. Mais ce que j'ai vu à la maison est encore bien plus triste. L'accueil de mes vieux parents fut tendre à l'arrivée. Un doux rappel des sollicitudes d'autrefois pour l'enfant devenu femme, agité, étonné mon père et ma mère, me cherchant les premiers jours dans mes paroles, dans mes regards et les moindres activités de ma vie à leur foyer. Mais à mesure que le calme se faisait en eux, qu'ils reprenaient leurs habitudes journalières, je voyais bien qu'ils ne me retrouvaient plus. Et de mon côté, l'écart grandissait aussi. Qui a changé, deux ou deux mois ? Mon père est charpentier, obligé de travailler pour vivre malgré son grand âge. Il fabrique ses maisons au toit de bouleau qui, l'hiver, tremblent sous la neige. Il fabrique aussi les cercueils de la paroisse, mais sans trouver une pensée pieuse dans l'accomplissement de ce triste devoir. Il le berce de refrains grossiers, l'oublie dans ces mornes distractions qui font pleurer les femmes. Il y a toujours une grosse bouteille jaune sous les copeaux de l'établi. Ma mère s'est plainte d'abord, elle a supplié, puis, repoussée par des mains brutales, elle a plié sous l'injure et les coups, et l'invisible poison des choses s'est aussi infiltré en elle pour y détruire le sens divin. Ce n'est plus une femme, une mère, c'est une esclave sans dignité. Je sais que je vous blesse par ces aveux, vous trouvez ma clairvoyance impie. Mais je vous l'ai dit souvent, Hélène, depuis longtemps j'ai dépassé la terre, et née une seconde fois en Dieu, je me glorifie d'avoir perdu tout sentiment humain. Écoutez le dénouement de ce drame domestique. Hier matin, enfermé dans ma petite chambre, un semblant de cellule au meuble de bois où je me réfugie à toute heure pour prier, méditer, écrire, vivre à genoux. Ô Jésus ! Devant ta croix conductrice des âmes, j'ai entendu mon Père, ses cloisons sont si minces, demander brutalement à ma mère ce que j'étais venu faire chez eux, puisque je ne voulais ni coudre, ni filer, ni aider aux soins du ménage. Il criait « Va lui dire ! Va lui dire !» Un moment après, ma mère est montée doucement, elle a tourné autour de moi avec son air éternellement embarrassé, m'a grondé tout bas de ne pas m'occuper. Mes sœurs étaient mariées. La plus jeune, en service à Christiania, trouvait moyen d'envoyer quelques petits secours aux parents. Ma santé s'améliorait, il fallait pourtant tâcher de... Ou alors... Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai pris entre mes mains ce vieux visage, dont les baisers étaient si doux autrefois à ma tête blonde, et je l'ai baigné longuement de mes larmes, les dernières. Et maintenant, où irai-je, puisque les miens ne veulent plus de moi? Il m'en fallait si peu cependant pour ne pas mourir. On m'offre une place à Saint-Pétersbourg. Encore une éducation, c'est-à-dire l'abaissement et le servage. Mais qu'importe, ce malheureux essai de vie familiale vient de me convaincre que le monde est mort pour moi, la famille comme le reste. Mon cœur se ferme à la terre, Hélène, et rien de la douceur humaine ne le pénétrera plus. Hélène recevait cette lettre d'Henriette Brice un soir en revenant de Port-Sauveur. Elle la lisait devant la table mise, les deux couverts en face l'un de l'autre, avec le bouquet que Madame Epstein ne manquait jamais de poser dans le verre de sa chérie pour ce repas ensemble, une fête de chaque jour. Et, tout en attendant sa mère, elle restait immobile, sans même se débarrasser de ses gants ni de sa toque, regardant cette lettre ouverte qui lui paraît des mêmes idées de mort, de renoncement, d'anéantissement en Dieu qu'on lui prêchait là-bas, pareil dans les deux religions à la différence des termes. Dans ce terrible combat qui se livrait en elle, quelle fatalité que cette voix découragée d'Henriette Brice venant s'ajouter aux paroles de Jeanne Hautemont. Une porte s'ouvrit. Sa mère rentrait. Elle cacha la lettre dans sa poche, sachant ce qu'en penserait Madame Epstein. Pourquoi discuter quand on ne peut s'entendre? Comment avouer que sans avoir, hélas, dépassé la terre, elle comprenait maintenant qu'il y eut un devoir plus haut, plus près du ciel que celui de la famille, et que ces blasphèmes ne l'indignaient plus. « Te voilà, Linette, je ne t'avais pas vue. J'étais en bas avec Sylvanie. Y a-t-il longtemps que tu es là? Mais défais-toi donc !» Hélène paraissait si lasse, si épuisée, comme chaque fois qu'elle revenait de Port-Sauveur. Elle se débarrassait de son chapeau avec tant de nonchalance, sans même un coup d'œil à la glace pour voir si elle n'était pas décoiffée, et à table, elle mangeait si peu, distraite, répondant à peine aux tendres encouragements de sa mère, que celle-ci commença à s'inquiéter. Comme toujours en été, elle dînait la fenêtre ouverte sur le jardin, et l'on entendait des cris, des rires, mêlés à ces gazouillements éperdus que les oiseaux jettent en adieu au soleil couchant. Tiens, monsieur Haussandon a ses petits-enfants aujourd'hui. C'est une fatigue pour ce pauvre homme. Madame Haussandon est en voyage. Il paraît que le major va se marier. Une invention de la bonne dame, ce mariage. Un moyen de savoir s'il ne restait pas, par hasard, à Hélène, un petit sentiment au fond du cœur. Elle était si froide depuis quelques jours avec Laurie. Mais, au regard en dessous de sa mère, Hélène répondait par un « Ah !» d'une franche indifférence. Non, ce n'était pas cela. Alors Madame Epstein se tourmentait davantage. Elle examinait ses beaux yeux cernés d'un halo bleuâtre, ce visage qui s'effilait sous le menton et perdait sa fraîche rondeur adolescente. Décidément, il se passait chez sa petite quelque chose d'extraordinaire. Elle essayait de la questionner sur ses journées de Port-Sauveur, sur les heures de classe ou de récréation. Comme ça, l'école est tout près du château et tu ne vas que de l'un à l'autre. Mais tu ne prends pas du tout d'exercice, ma chérie. C'est épuisant, 5 heures de classe sans bouger. Au moins, tu es allée voir Maurice à l'écluse? Non, elle n'y était pas allée. Et Madame Epstein se répandait en plaintes compatissantes sur ce pauvre petit, un peu délaissé au milieu des joints et des préparatifs du mariage. Son père trouve qu'il est mieux là-bas pour ses études navales. Mais vraiment, je ne vois pas trop ce qu'il peut apprendre. Ah, ma fille, quel bien tu vas faire dans cet intérieur! Quelle belle tâche pour une femme bonne et sérieuse comme toi! Bien sérieuse en effet, puisque rien ne pouvait la tirer de cet engourdissement, indifférence ou fatigue, qu'il a laissé à table le repas fini, fixant au-delà de la houle des arbres, vers le même point du ciel couleur d'or, une rêverie qui ne finissait pas. « Sortons un peu, veux-tu, fillette? Il fait si bon, nous prendrons Fanny en descendant. » Hélène commença d'abord par refuser, puis devant l'insistance de sa mère, « Tu le veux? Eh bien, allons » dit-elle avec le ton d'une résolution prise, d'un sort jeté sur une grave décision. En ces beaux soirs d'été, le parterre du Luxembourg, tout ce côté du jardin qui touche à l'ancienne pépinière dont il a gardé des arbustes, ressemble, avec ses plantations en corbeille, ses clématites du Japon, enroulant leurs lianes et leurs clochettes de pourpre en girandole, avec ses massifs de yuccas et de cactus sortis des serres, ses statues aux blancheurs vibrantes, à un parc vert et soigné, fraîchement arrosé pour le plaisir des promeneurs. Rien de la poussière des grandes allées, rien de la rumeur du boulevard Saint-Michel. Ici, les moineaux se baignent dans le sable, volant au ras de l'herbe, en compagnie des gros merles, familiarisés par les miettes du goûter des enfants. De toutes les rues voisines, il vient, après le dîner, dans ses allées tournantes, vers le rucher modèle et les arbres fruitiers en bouquets, en quenouilles, en espaliers au vent, une population bien différente de celle qui hante les terrasses. Des petits rentiers, des ménages, des femmes qui apportent leur ouvrage ou leur livre, et le dos tourné à l'allée, le visage à la verdure, épuisent jusqu'au dernier filet de jour, des gens qui marchent le nez sur un journal et des volées d'enfants s'appelant, se poursuivant, ou tout petits, essayant leurs premiers pas, et dehors, à cette heure tardive, parce que la mère travaille tout le jour. Laurie, ayant installé le pliant de Madame Ebsen devant une bordure d'iris dont elle aimait les teintes satinées et le parfum aquatique, proposa à Eileen de marcher un peu. Elle accepta vivement, fiévreusement, au contraire des autres jours où elle semblait éviter un tête-à-tête. Le pauvre homme ne cachait pas sa joie. Il prenait une allure fière qui le rajeunissait, tandis qu'il s'éloignait dans le jardin anglais et croisait d'autres couples, des fiancés peut-être, comme eux. S'épuisant en belles phrases, il remarquait à peine le mutisme de la jeune fille qu'il prenait pour une réserve, plus grande maintenant que le mariage approchait. Car, sans que le jour fût fixé encore, on avait dit, aux vacances, pour que, les élèves partis, les cours fermés, on eût le temps d'une installation. Aux vacances, et l'on était en juillet. Ah, le beau juillet, rayonnant de soleil et de promesses! L'amoureux en était ébloui, aveuglé, comme ces vitres au couchant qui flamboyaient entre les branches, là-bas vers le boulevard, et faisaient à leur promenade un horizon illuminé. « Non, joue devant !» dit Hélène à la petite Fanny venant se serrer contre elle. L'enfant obéit, se remit à courir dans le vol des hirondelles et les pépiments des pierrots, qui sautillaient jusque sous les pas des promeneurs, allaient des arbustes aux statues, sur la crinière du lion de Caïn ou le doigt levé de la Diane. Le jour descendait, des ombres lilas couraient à terre. Hélène les suivait, le regard baissé, et tout à coup... J'ai appris quelque chose qui m'a fait de la peine. Il paraît que Maurice se prépare à sa première communion. En effet, Maurice venait d'écrire à son père qu'il allait au catéchisme à Petit-Port et que le curé était tout fier d'avoir un communion cette année. Mais en quoi cela pouvait-il la fâcher ? On devait m'en avertir d'abord, dit-elle sévèrement, et je ne l'aurais pas permis. Puisque je dois être la mère de ces enfants, puisque vous voulez que je les guide dans la vie, j'entends qu'ils aient la même religion que moi, la seule, la vraie. Était-ce bien Lina, la charmante fille au placide sourire, qui parlait de ce ton sec et volontaire? Était-ce bien elle encore, qui disait « Va-t'en » d'un geste dur à l'enfant revenu vers eux, et s'arrêtant, saisie du changement de leurs voix et de leurs figures? Le jardin tout autour semblait transformé, lui aussi, agrandi, plus vague, les fenêtres au lointain mourant une à une sous le crépuscule bleu qui montait. Subitement, Laurie se sentit gagnée d'une tristesse qui lui laissait à peine la force d'un essai de débat devant la froide résolution d'Hélène. Pourtant, elle était trop raisonnable pour ne pas comprendre. Il y avait là un scrupule, un cas de conscience. Les enfants étaient catholiques comme leur mère et ne fussent que par respect pour la morte. Elle l'interrompit sèchement. Il faut choisir. Je ne saurais engager ma vie dans ces conditions, avec des différences de foi, de culte et la discorde pour l'avenir. Hélène, Hélène, quand on s'aime bien, le cœur n'est-il pas au-dessus de tout cela ?
Il n'y a rien au-dessus de la croyance.
La nuit était venue, les oiseaux se taisaient dans les arbres. Les passants, devenus plus rares, s'écoulaient au battement lointain de la retraite par l'unique sortie encore libre, pendant qu'à l'horizon, la dernière fenêtre s'éteignait. De Lina, Laurie ne voyait plus que deux grands yeux qu'il reconnaissait à peine, tant leur fixité ressemblait peu à la douceur du sourire ami.
« Je ne vous parlerai plus de ceci, dit-elle. Maintenant, vous connaissez mes conditions. »
La mère, trouvant qu'il s'attardait, s'approcha d'eux avec Fanny.
« Allons, il faut rentrer. C'est dommage. Quelle belle soirée !»
Et elle continua à parler toute seule pendant le trajet qu'ils faisaient côte à côte en apparence, mais si loin comme déliés.
« À tout à l'heure. Vous allez venir ?» dit Madame Ebsen au bas de l'escalier.
Laurie rentra chez lui sans oser répondre et laissa l'enfant prendre ses livres et monter seule. Elle redescendit presque aussitôt, pouvant à peine parler, tant son petit cœur était noyé de sanglots.
« Voilà, il n'y a plus de leçons. Mademoiselle m'a renvoyée. Elle ne veut plus être ma maman. Oh, mon Dieu !»
Sylvanie la prit, l'emporta dans sa chambre, toute suffocante et pleurante.
« Tais-toi, mamie, pleure plus. Je ne te quitterai jamais, moi. Entends-tu ? Jamais !»
On eût dit qu'il y avait une joie dans la grosse étreinte et les baisers bruyants de la servante, heureuse d'avoir reconquis son enfant et pressentant la rupture comme elle avait deviné l'amour. Un instant après, Madame Ebsen arriva bouleversée.
« Eh bien, mon pauvre Laurie !
Elle vous a dit, n'est-ce pas ? Voyons, est-ce que c'est possible ? Moi encore, je ne dis pas. Je l'aime tant, je ferai tout pour lui plaire. Mais ses enfants ! Comme je sais les idées qu'avait leur mère. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Et renvoyer Fanny comme elle a fait, elle en pleure encore, la pauvre petite. Écoutez.
Hélène aussi pleure là-haut. Elle s'est enfermée dans sa chambre pour que je ne lui parle pas. Comprenez-vous ça, m'empêcher d'entrer, nous qui n'avons jamais eu rien de secret l'une pour l'autre.
Et remuée dans son apathique et tendre nature, la bonne femme répétait toujours
« Mais qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a ?»
On lui avait changé sa fille. Plus de piano, plus de lecture, une indifférence pour tout ce qui lui plaisait autrefois. À peine si elle consentait à sortir un peu.
« Tenez, ce soir j'ai dû la forcer. Avec ça, elle est pâle, elle mange mal. Moi, je crois que c'est la mort de sa grand-mère. »
« Et Port Sauveur et Madame Hautement, » dit Laurie d'une voix grave.
« Vous pensez ?»«
Je dis que c'est cette femme, c'est elle qui nous prend notre Lina. »«
Oui, peut-être, vous avez raison. »
Mais ils payaient si bien, ils étaient si riches, et devant les hochements de tête du pauvre amoureux que ses considérations ne touchaient guère, elle concluait
« Allons, allons, tout ça s'arrangera. »
comme lorsqu'on veut s'illusionner et attendre son malheur les yeux clos. Toute la nuit et le lendemain au bureau, pendant sa machinale besogne de subalterne, Laurie s'affermissait dans sa résolution de ne pas céder. Ce travail consistait à dépouiller les journaux, à en extraire le moindre article, le mot où l'on parlait de son ministre, avec le nom de la feuille consignée en marge. Ce jour-là, tout au drame de son existence, il expédiait à la hâte son affaire, distrait par deux ou trois brouillons d'une lettre à Lina, difficilement élaborée au milieu des platitudes et des rires, venus des pupitres de ses collègues, quand, dans l'après-midi, on l'appela chez son directeur. Ce n'était plus Cheminot depuis déjà quelque temps. Continuant sa montée rapide, l'ancien préfet d'Alger avait pris au même ministère la direction de la Sûreté, et même l'on parlait de lui pour la préfecture de police. Cheminot chemine, disait-on dans les bureaux. Celui qui le remplaçait, un divisionnaire à coups de sang, fit à son employé une scène épouvantable. Avait-on jamais vu, à son excellence, un manque de respect pareil ?
Moi, j'ai manqué ?
Mais certainement, monsieur se permet des abréviations. Monsieur écrit « mon » »« univ »,
pour moniteur universel. Espériez-vous donc que le ministre comprendrait ? Il ne l'a pas compris, monsieur. Il ne pouvait pas, il ne devait pas comprendre. Ah, prenez garde à vous, monsieur l'ancien 16 mai !» C'était le dernier coup sur un homme à terre. Il en resta comme ahuri jusqu'au soir, se disant que Lina, perdue pour lui, emportait aussi son étoile. Ce fut bien pis quand il apprit en rentrant que Fanny n'avait pas mangé de la journée, qu'elle était restée à attendre à la vitre le retour de mademoiselle, sans qu'à ses appels de « Maman, maman !» Élie n'eût daigné retourner la tête. « Ça, monsieur, c'est méchant !» disait Sylvanire indignée. « Notre enfant peut en devenir malade. » Puis, avec un peu d'hésitation, « Je pensais, si monsieur voulait, nous irions toutes deux passer un bout de temps à l'écluse. Son frère, le grand-père, ça la remettrait. »« Faites, faites !» dit Laurie, découragée. Le dîner fini, il entra dans sa chambre essayer d'un peu de classement pour se distraire. Comme cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps, il secouait la poussière des cartons, ayant peine à se reconnaître dans ce système de numéros et de renvois avec lequel l'administration complique ses moindres paperasses et qu'il avait adopté pour ses rangements intimes. Malgré tout, sa pensée ne pouvait s'attacher à ce qu'il faisait et monter d'un étage à tout instant vers cette Hélène impitoyable dont il suivait les pas légers, de la croisée à la table, du piano à la place de grand-mère, chaque angle dégarni de la pièce où il se trouvait, lui figurant le même au-dessus, mais orné, coquet, aimable aux yeux. Il songeait, le pauvre homme, et sa conscience s'agitant au mouvement de son cœur, il en arrivait au compromis, au subterfuge. C'était assez juste, après tout, ce qu'elle demandait là. Son mari, ses enfants, elle-même, unis devant le même Dieu, puisqu'il y en a plusieurs, paraît-il, et le lien pieux consolidant la famille. D'ailleurs, l'État reconnaissait cette religion comme l'autre. Et pour le fonctionnaire, c'était là un point essentiel. Dans l'intérêt même de ses enfants, où leur trouverait-il une mère plus tendre, plus sensée, plus mère ? Et s'ils renonçaient à un second mariage, ils seraient donc pour jamais laissés à leur bonne. Maurice encore, on était sûr de sa vocation, de son avenir, mais Fanny, il se la représentait telle qu'elle lui était revenue d'Algérie, avec les mains rouges, un gros châle comme Sylvanir, la coiffure, l'humble attitude, l'odeur d'une enfant pauvre. Éperdu, il appela à son secours le souvenir de sa chère morte. « Aide-moi ! Conseille-moi !» Mais il avait beau l'évoquer, il ne pouvait plus la voir, et toujours à sa place se dressait l'image blonde et rose, toute jeune et tentante, d'Elie Nebsen. Même cela, la mémoire du premier bonheur, elle lui avait tout pris. Ah, méchante Lina ! Décidément, ce soir-là, le classement n'avançait guère. Laurie vint s'accouder à sa fenêtre ouverte. En face, de l'autre côté du jardin, la fenêtre d'Ossandon, éclairée aussi, lui montrait la silhouette du doyen penché sur son bureau. Jamais il n'avait parlé à ce grand vieillard qu'il rencontrait et saluait souvent, fermé droit sous ses 75 ans, les cheveux et la barbe en collier, tout blanc et crépus autour d'une bonne physionomie spirituelle. Mais Madame Ebsen lui avait raconté cette existence glorieuse et il en savait les moindres détails. Sévenol et paysan, sans aucune ambition, Ossandon, s'il eût été seul, n'aurait jamais quitté sa première cure, à Montdardier dans le Mézinque, son temple en pierre noire du pays, sa vigne, ses fleurs, ses abeilles, qu'il aimait à soigner dans les intervalles du culte, appliquant la même douceur d'âme au sacerdoce et au jardinage, trouvant un sermon sous sa bêche, comme il semait le grain du haut de sa chair. Le dimanche, les offices du village terminés, il avait un prêche dans la montagne pour les bergers, les bûcherons, les fromagers. Trois marches en bois au-delà de toute culture, au-delà des sapins et des châtaigniers, dans cette zone élevée où rien ne pousse, où rien ne vit plus que des mouches. Ses plus beaux discours, familiers et grands, furent parlés là pour ces pauvres, en vue d'un horizon pastoral d'où l'humanité civilisée semblait absente, les sonnailles des troupeaux dispersés sur les pentes s'éloignant, se rapprochant, et secoués au cou des bêtes qui paissaient, répondant seuls à la voix du pasteur. Cet accent des hauteurs, rafraîchissant et fier, cette âpreté de parole où le patois faisait souvent image et flattait l'auditoire, Ossandon ne les perdit jamais et leur dut plus tard sa gloire de prédicateur à Paris. Le sermon fini, il dînait dans une hutte d'un plat de châtaigne et redescendait, accompagné de tout un peuple, chantant des versets, quelquefois dans un de ces formidables orages de montagne dont les roulements, la grêle et le feu, éclatant à la fois sous ses pieds et sur sa tête, l'enveloppaient comme le Moïse de la Bible. Il aurait voulu rester, toujours ignoré, dans ce coin de nature, mais Madame Ossandon ne le permit pas. Cette terrible petite femme était la fille d'un percepteur des environs, rose et dorée comme un plein vent, avec des allures actives et proprettes de demoiselle de village, les yeux vifs, une bouche en avant aux lèvres relevées, aux dents saillantes et pointues d'un Dauguin bon enfant, mais ne lâchant pas le morceau. C'est elle qui menait son mari, l'excitait, le harcelait, ambitieuse pour lui, surtout pour leurs garçons nombreux comme les glands sur un chêne. Elle le fit nommer d'abord à Nîmes, puis à Montauban, puis à Paris, où elle le conduisit enfin. Sa science, son éloquence étaient bien à lui, mais Bonne, ainsi qu'il appelait sa femme quand il essayait de la retenir, Bonne le mit en lumière, fit malgré lui sa position et sa fortune. Économe pour deux, car Ossandon, au village, donnait tout, linge, vêtements, jusqu'au bois de son feu, qu'il jetait aux pauvres par la fenêtre, quand sa femme emportait la clé du bûcher. Elle éleva à la dure ses huit garçons, mais on ne vit jamais un trou à leurs souliers, ni à leurs pantalons qu'elle raccommodait aux veillées, toujours une couture ou un tricot à la main, en parlant, en marchant, ou plus tard, en wagon, en diligence, dans ses voyages pour aller voir son petit monde, dispersé dans toutes les écoles où elle eut des bourses. Cette activité dont elle était possédée, elle l'exigeait des autres, et ne laissa son mari tranquille que lorsque les huit garçons furent casés, mariés, les uns à Paris, les autres un peu partout en France ou à l'étranger. Et il en avait fallu pour cela des enterrements et des mariages, des cérémonies mondaines et fatigantes, pour lesquelles on recherchait le pasteur Ossandon, qui avait su se faire une place à part entre les orthodoxes et les libéraux, au-dessus des partis et des rivalités. Le pauvre grand homme eut plus de gloire et d'occupation, certes, qu'il n'aurait voulu, regrettant sans cesse la largeur de temps et d'espace dont il disposait à Montdardier et ses sermons sur la montagne. Enfin, on le nomma à la faculté de théologie et sa femme lui permit alors de se contenter de son cours, de reprendre dans leur petite maison de la rue Val-de-Grâce sa vie calme et contemplative du Mézinc. En haut de la côte, c'est ainsi qu'il exprimait son bien-être présent, gagné par tant de peines, de privations morales, et dont il jouissait en gourmet de la vie, malheureux seulement quand son cher tyran le quittait et courait les routes malgré son âge pour aller voir un des garçons. Ni distance ni fatigue, rien ne la rebutait, la petite vieille. Tantôt Paul le major, aux grandes manœuvres, la voyait apparaître au milieu du camp, se débrouillant dans les numéros des bataillons, des compagnies, courant aux portes des tentes. Tantôt l'ingénieur de Commenterie, à l'entrée des galeries noires, l'aidait à descendre du palais des mineurs. « Tiens, voilà maman !» En ce moment encore, la mère Ossandon était en voyage. Sans cela, jamais le doyen n'eût travaillé si tard à sa fenêtre ouverte. Il préparait sa leçon du lendemain, calme, recueilli. Et cette idée qu'il était seul engagea tout à coup Laurie à venir le trouver. Il n'eut que le jardin à traverser. Un coup léger à la porte et le cabinet de travail s'ouvrait, confortable, tapissé de livres non reliés, un grand portrait de Madame Ossandon au-dessus du bureau, surveillant de ses yeux attentifs et de son sourire prêt aux gronderies le travail de l'excellent homme. Tout de suite, sans trop de phrases, Laurie dit ce qui l'amenait. Il voulait se convertir, lui et ses enfants, à la religion réformée. Il y songeait depuis longtemps et maintenant c'était pressé, très pressé. Qui avait-il à faire ? Ossandon sourit doucement, le calma du geste. Pour les enfants, on n'avait qu'à les envoyer à l'école du dimanche. Laurie, lui, devait connaître à fond ses nouvelles croyances, étudier, comparer, s'habituer à juger et à voir de ses yeux, puisque cette religion de vérité et de lumière le permettait, le commandait à tous ses fidèles. Le doyen l'adresserait à un pasteur, car lui-même était vieux, fatigué. On ne l'eût pas dit à cette prestance fière, à cette parole solide qui déconcertait le flottant et faible Laurie. Oui, bien vieux, bien là, en haut de la côte. Il y eut un silence et comme une gêne entre eux. Laurie détournait les yeux, un peu troublée de sa démarche. Le doyen, devant son bureau, regardait sa page blanche qui l'excitait à penser. « C'est pour Hélène, n'est-ce pas ? » dit-il au bout d'un instant. « Oui. Elle exige cela de vous ? Elle, ou du moins ceux qui la font agir ?»«
Je sais, je sais. »
Il savait, il avait vu la voiture de Madame Hautement s'arrêter souvent devant la porte. Il connaissait la femme et les menées dont elle était capable. Si Bonne ne le lui avait pas défendu, il eût depuis longtemps prévenu la mère. Encore à présent, pénétrant jusqu'au fond du drame que Laurie ne faisait qu'entrevoir, il aurait eu bien envie de parler.
« Oh oui, je la connais, cette Jeanne Hautement. C'est la femme qui brise et qui détache, l'être sans cœur et sans pitié. Partout où elle passe, les larmes, la désunion, la solitude. Avertissez la mère, car ce n'est pas de vous seulement qu'il s'agit. » Qu'elle emmène Lina bien vite, bien loin, qu'elle l'arrache à cette morte vivante, à cette mangeuse d'âme, froide comme la goule des cimetières. Peut-être en est-il encore temps.
Ossandon pensait tout cela, mais il n'osait le dire à cause de la petite vieille qui était là devant lui, droite dans son cadre, le tenant en arrêt avec son regard prudent de paysanne, prête à lui sauter dessus s'il avait parlé.